Bonjour, bienvenue sur la chaîne guitare. Il s'agit de l'épisode numéro 15 et nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 juillet 2009. C'est parti pour le sommaire. Alors, ce que je vous propose dans ce nouvel épisode, c'est une rencontre avec un guitariste énorme de la scène française et même souvent un petit peu plus loin, qui s'appelle Jean-Michel Cagedan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer juste avant un concert qu'il a donné au Baiser Salé avec un groupe qui s'appelle Maison Close, qui est un jeu de mots en fait, parce que le chanteur s'appelle Klaus Blaskis. Et c'était bien sympa, donc ça va être ça l'essentiel de l'émission. Mais et avant de vous passer l'interview, il y aura évidemment quelques nouvelles et on y va tout de suite, on commence par ça, c'est parti. Alors les nouvelles, il y a toujours le groupe, la page fan pardon de la chaîne guitare qui commence à pas mal se développer, donc je suis assez content. On vient de dépasser les 100 fans de la chaîne guitare, donc je vous rappelle un peu le but du jeu de cette page fan à l'intérieur de Facebook, hein, c'est que moi je vais m'en servir évidemment pour diffuser de l'information puisqu'elle est liée avec le compte Twitter que j'utilise pour la chaîne guitare pour diffuser de l'information qui parle de guitare, mais je vais aussi m'en servir pour publier tous les épisodes de la chaîne guitare, ce qui fait que pour les accros de Facebook, ils pourront directement écouter les épisodes de la chaîne guitare directement en Facebook sans forcément passer par la case iPod / iTunes et compagnie. Et évidemment aussi l'autre fonctionnalité très intéressante des pages fans, c'est que vous aussi vous pouvez participer, vous pouvez partager des liens, des vidéos, etc. Et puis échanger de l'information, c'est bien le but du jeu, c'est d'avoir une communauté assez active et puis forcément, comme on est des gens passionnés, forcément vous avez des choses à dire, donc c'est l'endroit où jamais pour aller échanger et pour discuter un petit peu de ce qui vous passe par la tête dans votre actualité de guitare. Donc j'ai mis un lien sur la page principale du blog, hein, de la chaîne guitare, donc vous pouvez absolument pas le rater. Voilà, je voulais aussi vous parler du concert de Chicken Foot, donc j'y suis allé avec ma tendre épouse, c'était lundi soir, lundi 29 juin, donc malgré tous mes efforts, hein, comme je vous l'ai déjà dit à travers Twitter, j'ai pas pu rencontrer Joe Satriani, là je suis arrivé jusqu'à la boîte de promotion, mais visiblement ces superstars sont quand même pas mal occupés, il y avait une heure de disponible et tout était booké, donc c'était pas possible. Bon, je me doutais bien que c'était peut-être un petit peu un gros morceau pour l'instant, vu qu'après tout la chaîne guitare est juste en train de commencer. Mais ça valait le coup d'essayer. De toute façon, j'ai un contact comme ça dans une boîte de promotion et donc je ne désespère pas de pouvoir aller à la rencontre d'autres artistes internationaux de ce calibre ou d'un autre calibre, hein, sachant que la philosophie derrière la chaîne guitare, hein, je le répète, hein, c'est vraiment de partager la passion de la six cordes à travers tous ces horizons, que ça soit à travers tous ces horizons et tous ces styles, hein, surtout. Donc moi, par goût, je suis plus rock et compagnie, mais je veux aller à la rencontre de guitaristes de tout style, de groupes de tout genre, quoi. Hein. Donc, mais toujours est-il que le concert de Chicken Foot, c'était vraiment bien. Bon, moi, très sincèrement, je m'attendais quasiment à un moment historique, hein, avec tout le buzz qu'il y avait eu autour. Donc, mes attentes étant tellement élevées, j'étais un petit peu déçu par le concert. En tout cas, c'était ma réaction à chaud. Rétrospectivement, je pense que c'est un petit peu injuste comme jugement, parce que le concert était vraiment très bon. Et peut-être juste c'est un groupe qui manque un peu de maturité, paradoxalement, même si c'est 4 musiciens énormes, hein, parce que donc il y a Chad Smith à la batterie, Michael Anthony à la basse, Sammy Hagar à la voix, et puis donc Joe Satriani à la guitare. Donc c'est 4 musiciens extrêmement accomplis et qui ont pas mal de métiers. J'ai l'impression que ça manque un petit peu de chimie encore pour qu'il y ait une véritable magie qui se dégage. Donc, mais en tout cas, ça se voit qu'ils ont du fun, qu'ils ont du plaisir sur scène, ça dégage, ça envoie le bois, là, comme dirait Philippe Manœuvre. Donc c'est pas mal sympa, c'est aussi très intéressant de voir cette réunion justement dans un contexte groupe, on sent qu'il a du plaisir à participer comme ça à la chanson, c'est pas juste, bon ok, ça y est, je fais mon solo, ah bah tiens, c'est déjà fini, il faut reprendre, se remettre à chanter, enfin bon, donc c'est vraiment sympa, moi j'ai bien aimé, et puis les 11 ou 12 chansons de l'album éponyme Chicken Foot, moi, continue pas mal de tourner sur iTunes, quasiment en boucle. Donc c'est pas mal du gros rock et c'est assez sympa. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc on va passer maintenant à l'interview donc de Jean-Michel Cagedan que j'ai réalisé le 10 juin dernier, juste avant un concert qu'il donnait donc avec le groupe Maison Close. Et comme très souvent, comme tous les musiciens, il a répondu très rapidement à mon appel et on a discuté donc dans le bar un petit peu avant le concert. Donc c'est parti, on écoute ça. Alors donc un invité très très spécial dans la chaîne guitare, donc en la personne de Jean-Michel Cagedan. Moi je suis toujours très très intimidé quand je rencontre un monstre de la guitare. Donc comment est-ce que ça va, monsieur Cagedan?
Oui, bah présenté comme ça, ça va super bien, très ouais. Bien.
Alors je commence toujours les interviews sur la chaîne guitare avec la même question. Quelle était votre première guitare?
Ah ça c'est... Alors j'aurais du mal à répondre parce qu'en fait c'était une guitare sans marque. C'était une guitare qui m'avait été offerte par ma grand-mère, qui avait les cordes à 1m50 du manche à peu près, qui me faisait très très mal aux doigts. C'était, je sais pas, une espèce de guitare...
acoustique?
Oui, acoustique, ouais. Ouais, mais pas classique non plus, genre de... Entre les deux, guitare folk un peu, mais surtout j'ai des souvenirs effectivement d'avoir vraiment très très mal aux doigts, quoi.
Ouais. Bon, bah visiblement, ça vous a pas complètement dégoûté par la suite. Alors, en quelques phrases, comment est-ce que c'est possible de résumer votre parcours justement en partant de cette guitare jusqu'à nos jours aujourd'hui, là, puisqu'on est au Baiser Salé où vous allez jouer tout à l'heure?
Bon, je suis passé par tout un tas de méandres. En fait, le fait de jouer ce soir, finalement, c'est un espèce de retour un petit peu à ce qui m'a donné envie de jouer, c'est-à-dire une musique proche du blues, qui en fait là un petit peu plus rhythm and blues funk, mais quand même avec une base, vraiment une essence blues. Et donc je retrouve vraiment mes racines, enfin ce qui m'a donné envie de jouer au départ. Bon après, si on remonte au tout début, j'ai surtout joué avec beaucoup de chanteurs, j'ai accompagné les chanteurs, j'ai fait pas mal de séances d'enregistrement aussi, donc des trucs qui n'existent plus trop aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait des grands studios et puis il y avait des arrangeurs qui nous appelaient. Et puis on arrivait le matin à 9h, 9h30, on ne savait pas pour qui on allait jouer. On savait juste quel était le nom de l'arrangeur qui nous avait appelé, mais bon, c'était les années 80. Enfin bon, voilà. Donc ça fait partie aussi du métier de musicien, de pouvoir faire des choses comme ça. Donc j'étais un espèce d'ouvrier spécialisé. Bon, je faisais ça un peu en apnée. Parfois c'était sympa parce qu'on se retrouvait à jouer avec des musiciens... comme Kurt Russ, Manu Katché, Francis Lockwood, enfin bon, donc c'était agréable. Puis parfois c'était pas terrible,
ouais.
Mais bon, ça faisait manger. Moi, j'avais une famille, j'étais content de pouvoir déjà vivre de la musique et puis de pouvoir nourrir ma famille, de partir en vacances et puis m'acheter du matériel. Mmh.
Ouais. Et alors je suppose que c'est par modestie, là, vous voulez pas citer un certain nombre de grands noms derrière qui vous avez joué, mais c'est qui, par exemple, les grandes rencontres qui ont marqué là ces moments-là, que ce soit sur scène ou en studio?
Bah, en fait, j'ai commencé, ça fait sourire toujours quand je dis ça, mais un des premiers chanteurs que j'ai accompagné, c'était Joe Dassin. C'est donc évidemment avant sa mort, parce qu'après ça aurait été difficile, mais bon. Donc c'était en 78-79. J'avais déjà commencé à faire des séances. Enfin, j'ai commencé les séances vers 77 à peu près. Et puis, quelqu'un qui m'a vraiment marqué et qui a été très très important pour moi, parce que c'est de là que beaucoup de choses sont parties, c'est Michel Jonas. Et Michel Jonas, donc c'était en 1980, puisqu'en fait j'ai fait deux Olympias avec lui, dont le premier Olympia qui en fait défendait l'album qui venait de sortir, qui s'appelait Les années 80 commencent. Voilà. Donc, j'avais pas joué sur cet album-là, mais on a fait l'Olympia d'après, et j'ai joué sur l'album qui a suivi, qui s'appelait La Nouvelle Vie. L'Olympia d'avant, en fait, il y avait Manu Katché à la batterie. Parce qu'en fait, Jonas m'appelle et me dit, voilà, j'ai entendu dire que tu travaillais avec une équipe de musiciens. Moi, je recherche des gens pour faire l'Olympia. Est-ce que tu es OK pour monter l'équipe? Alors moi, évidemment, oui, tout de suite. Donc j'ai appelé les amis, les gens avec qui je jouais à l'époque, dont Manu Katché. Et on a fait l'Olympia, donc en 1981. Et après, Manu est parti au service militaire. Et donc c'est André Ceccarelli qui est rentré et qui l'a remplacé. Et là, on a enregistré à ce moment-là l'album La Nouvelle Vie, sur lequel il y a La Terre et le Père, Joueur de Blues, Les Fourmis Rouges, enfin bon, toutes ces jolies chansons, quoi. Et c'est vrai que à cette époque-là, je jouais avec Michel Jonas, qui avait la réputation d'être quelqu'un de très exigeant. Ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que du coup, ah oui, c'est le mec qui a joué avec Jonas et tout, donc c'était beaucoup plus facile après de. Et puis voilà, donc j'ai continué. Eddie Mitchell pendant 8 ans. Il y a eu aussi Lionel Richie pendant juste un showcase pour 3-4 concerts. Enfin, de temps en temps, le téléphone sonne pour des choses vraiment super intéressantes. Il y a eu Catherine Lara aussi. C'était pareil, aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire, mais Catherine Lara, à l'époque, c'était quelqu'un de très exigeant aussi musicalement. Tous les gens qui jouaient avec elle étaient des gens issus du jazz fusion. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faciles à jouer dans son répertoire, et en fait, elle s'était aperçue que c'était que des gens qui évoluaient un peu dans une certaine musique, un petit peu justement, pas élitiste, mais techniquement pas facile, qu'elle trouverait les musiciens capables de jouer certaines de ses chansons, quoi. Et puis, comme c'est une musicienne, elle adorait nous écouter jouer. Enfin, sur scène, c'était vraiment. C'est quelqu'un qui avait une vraie communication, un vrai regard, déjà avec les musiciens qui l'accompagnaient et avec le public. Donc on a fait un album ensemble qui s'appelait Nuit Magique, au milieu de nulle part, enfin bon, qui a été une de ses meilleures ventes d'ailleurs. Et puis je dois oublier plein de monde, hein. De toute façon, il y a eu aussi dans les années. Début des années 80, il y a eu Patrick Juvet aussi, qui était en pleine. C'était la mode du disco. Donc on a joué à l'Olympia aussi, avec des patineurs. En lamé qui dansait en bas, enfin c'était bon, c'était à mourir de rire, quoi. Mais bon, voilà, c'était l'époque qui voulait ça. Et puis il y a eu aussi de nombreuses années avec Didier Lecoudre. Là, bon, je reviens vers la musique vraiment. Et là, il ne s'agissait pas de faire mon métier de musicien, mais plutôt de faire de la musique avec des amis. Et on a joué dans le monde entier. On a fait des festivals partout en Europe. On a fait une tournée magnifique en Amérique du Sud, dans tous les festivals de jazz. Et voilà, j'ai sorti 5 albums aussi.
En solo.
En solo. Je ne me souviens pas trop quand j'ai trouvé le temps d'ailleurs de les faire, parce que quand je regarde un peu tout ça, tout se mélange un peu, j'ai un peu de problème avec la chronologie. Ouais. Mais donc j'ai fait 5 albums, ouais. Et puis il faudrait que j'en fasse un autre d'ailleurs, j'ai envie, mais j'ai pas le temps. Bon, j'ai pas mal d'activités diverses aujourd'hui. Je fais de la production, je produis une chanteuse qui s'appelle Sky. Qui vient d'ailleurs d'écrire la majorité des textes du nouvel album de Christophe Willem. Mm-hmm. Avec Sky, c'est une histoire, ça fait 10 ans, on a fait 3 albums, c'est des licences, donc je suis son producteur, donc tout ça, ça demande un gros investissement de temps, d'argent aussi, mais de temps, si je veux m'en occuper comme il faut, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis mis un petit peu en sommeil, enfin en stand-by un petit peu pour mes activités musicales. Mais bon, voilà, là, ce soir, je suis content de jouer. Je joue toujours, hein, mais disons que je suis moins sur le devant de la scène en tant que musicien, mais davantage en tant qu'éditeur, manager de Sky, quoi.
Oui, ça, je suppose, c'est un peu le revers de la médaille d'avoir des talents aussi variés, non seulement un guitariste incroyable, mais aussi avoir des capacités de direction musicale et puis une culture, être capable à la fois de faire de l'accompagnement et puis de faire des choses jazz fusion. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai des souvenirs d'un truc qui était passé à la télévision. C'est une émission qui s'appelait L'écho des bananes ou un truc comme ça, où il y avait eu plusieurs séquences, mais des trucs très jazz rock, où là, moi, j'en ai encore des souvenirs très ému, quoi.
Ouais, on avait fait, je me souviens, L'écho des bananes, c'était Vincent Lamy, en fait, voilà. Et effectivement, c'est une des rares émissions télé dans lesquelles on pouvait jouer, en fait, la musique que je faisais, quoi. Il y avait eu ça, il y avait eu Chorus avant aussi, mais enfin, c'était quand même un peu plus rock déjà. Mais c'est vrai que L'écho des bananes, ouais, je me souviens très très bien. On l'avait fait avec Didier Lecoud aussi. Et en plus, il y avait des gros moyens, c'était France 3. Il y avait des gros moyens, c'est qu'en fait les émissions étaient tournées au studio d'Avou à Paris, donc super studio d'enregistrement avec un grand espace, avec des grosses caméras, des caméras lourdes sur pied et tout ça. Enfin, c'était vraiment de la grosse prod, quoi.
Ouais, c'était un peu du taratata avant taratata, quoi.
Ouais, bien sûr, c'était ça, quoi. C'était du taratata sans les maisons de disques. Ouais. D'ailleurs, je suis très très, j'en profite, hein. Puisque c'est marrant qu'on se voit ce soir, mais je suis super content parce que j'ai appris tout à l'heure que Adopi avait été rejeté au Conseil constitutionnel. Et là, je suis vraiment ravi parce que moi, je me bagarre vraiment contre cette loi. depuis que le projet existe. Quoi. Et alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que je fais partie aussi de la commission des variétés de la SACEM, alors que la SACEM donc, s'est prononcée
pour
Adopi. Donc, j'essaye à l'intérieur de leur expliquer que c'est pas forcément une bonne chose. Bon, ça se passe très bien avec certains administrateurs, avec d'autres un peu moins. Mais disons que je préfère essayer de l'intérieur, à mon humble niveau, de faire changer un petit peu les choses de quelques millimètres, plutôt que d'aboyer de maniche à l'extérieur et puis de dire c'est nul et tout ça. La SACEM est un outil formidable. J'étais 8 ans administrateur de l'ADAMI, donc ça aussi ça prend beaucoup de temps, mais ça me passionne parce que c'est vrai que on a des outils vraiment formidables en France qui ne demandent en fait qu'à être maîtrisés et surtout à être utilisés d'une façon intelligente. Le problème, c'est que souvent, les gens qui sont à la tête de ces trucs-là, en fait, sont manipulés, soit par les syndicats, soit par je ne sais pas qui. Mais en fait, les décisions prises ne sont pas forcément... Il y a énormément de pression. Le problème de la SACEM, c'est une société qui est très difficile à administrer parce que c'est une société qui gère les droits des auteurs, des compositeurs, mais aussi des éditeurs. Et les plus gros éditeurs en France, enfin et ailleurs d'ailleurs, ce sont les majors. C'est Sony Publishing, c'est EMI Publishing, Universal Publishing. Donc ces gens-là sont au conseil d'administration, ils sont dans les commissions. Et donc il est évident qu'une décision qui va aller un petit peu contre les intérêts de ces grosses majors, ce sera très mal vu. Et puis n'importe qui en fait peut gérer les droits éditoriaux. Donc il suffit que les majors en question décident de faire gérer leurs droits par quelqu'un d'autre. Puis tout d'un coup, c'est 60% de ce qui rentre dans les caisses de la SACEM qui va ailleurs. Et donc c'est très très difficile. Mais je pense que tout le monde a compris les intérêts et les enjeux surtout d'Internet et de la vente en ligne. Même si la vente en ligne aujourd'hui reste quelque chose encore qui ne remplace pas en fait la vente de support physique et surtout qui ne pallie pas la chute. Mais bon, je pense que demain, de toute façon, la musique, on l'écoutera différemment. Déjà aujourd'hui, on l'écoutera différemment. De toute façon, même la notion de fichier à télécharger n'existera plus. Les fichiers, il y a Spotify, il y a Deezer déjà qui ont montré qu'on pouvait écouter de la musique autrement. C'est des web radios, c'est tout, ce sera des web. On sera tous abonnés en fait à des serveurs. Et puis le matin avant de partir, on programmera la playlist de la journée. Donc franchement, moi, télécharger des fichiers dans mon iPhone ou dans mon iPod, au contraire, ça va libérer de l'espace pour mettre des applications. Donc il faut. Mais les sociétés civiles ont du mal à l'admettre ça.
Vous pensez que les grosses majors, elles vont finir par comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'Internet et que ce sont des nouveaux moyens de diffuser l'information? Parce que c'est quand même un peu triste là, cette loi Adopi, à la fois scandaleuse, antédiluvienne et inapplicable. Enfin bon, on est un peu à la risée de tout le monde à cause de Madame Albanel, quoi.
Je sais, mais de toute façon, c'est pas simplement les majors, c'est aussi le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé que Internet, ça deviendrait le Minitel, parce que le Minitel, on peut le manipuler, on peut le contrôler, parce que là, on parle d'Adopi, mais il y a le Psy 2 qui arrive là. Et ça va faire du mal aussi. Hein, c'est bon. Donc bon, je pense qu'il faut être très vigilant, parce que c'est vrai qu'il y a des atteintes, à la liberté, aux libertés fondamentales. C'est d'ailleurs pour ça qu'Adopi a été rejeté. L'Europe a tapé du poing sur la table en disant attention, vous faites n'importe quoi. C'est pas l'accès à Internet qui est un droit, c'est l'accès à la connaissance. Donc vraiment aujourd'hui la connaissance est sur Internet, sur quand on coupe Internet il n'y a plus d'accès à la connaissance. Donc c'est un grave problème. C'est bien que le Conseil constitutionnel ait rejeté pour ces raisons-là, en plus de la présomption de culpabilité à la place de la présomption de mort. Ça c'est vraiment anticonstitutionnel. Bon bref, les majors, elles se sont appropriées Internet, mais à leur façon, c'est-à-dire les gens qui pensent. Qui sont à la tête des majors ont la pensée des gens du disque. Donc ils arrivent avec leur truc. Internet pour eux c'est juste un support de plus sur lequel ils vont pouvoir faire du marketing, quoi. Ils n'ont rien compris, tout ce qui est marketing viral, tout ce qui est ils continuent en fait de faire. D'ailleurs ils se sont dit là, on en a marre que ce soit Steve Jobs qui nous dicte le prix de la musique en ligne. Donc c'est pas assez cher, 99 centimes d'euros. Donc on va passer à 1 euro 20, je sais plus combien, 29 c'était, c'est ça? Ouais, ils se sont plantés. Du coup, il y a eu une chute énorme des ventes en ligne et tout. Du coup, ils ont dit hop, 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 hop. Donc, ils sont revenus à 0,80. Voilà. Donc, C'est bien la preuve que Steve Jobs connaît davantage en fait son marché, le prix de la musique, que Pascal Nègre. Donc c'est quand même. Bon, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Bon, voilà. Donc c'est des gens, on ne fait pas le même métier que ces gens-là. Ils sont en train. Le pouvoir est en train de changer de main. Donc le pouvoir est en train de devenir des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est les gens, les internautes eux-mêmes, qui prennent leur. Qui choisissent déjà, qui prennent leur destin en main et qui choisissent ce qu'ils ont envie d'écouter. Qui choisissent comment le marketing, comment communiquer, comment quelle vitrine choisir. Et ça les énerve, parce que jusqu'à présent, faire une campagne de pub, sur une télé, ça coûtait énormément d'argent. Il n'y a que les majors qui pouvaient se l'offrir, même les petits producteurs ne pouvaient pas. Aujourd'hui, moi j'ai ouvert, j'ai importé WordPress et en quelques heures, j'avais monté le blog de Sky. Et donc sur le blog de Sky, j'ai un contrat avec Believe, je vends la musique de Sky.
Directement.
Ouais. Je suis répertorié dans Google en même pas un mois via les robots. Donc je suis sur un espace, une vitrine mondiale. J'ai aujourd'hui, on est entre 400 et 600 connexions jour. C'est pas rien, quoi.
Donc, cette
autonomie, ça, ils ont du mal à supporter ça. Donc parce que finalement, on n'a plus besoin d'eux. On avait besoin d'eux encore pour fabriquer, éventuellement pour mettre à la FNAC. Il n'y a plus de FNAC. La FNAC, elle est en ligne maintenant. Donc en ligne, on sait le faire. Hein. Et donc, c'est un vrai problème. En plus de ça, quand on voit les rémunérations des artistes pour la musique en ligne, ça, c'est sûr qu'Apple y est pour beaucoup. Mais je veux dire, le taux de reversement des redevances en tant que licencié, en tant que producteur, c'est carrément ridicule. Donc moi j'ai récupéré pour ce cas, j'ai récupéré toute la musique en ligne, des albums précédents, surtout de l'album précédent.
Pour la vendre donc directement.
Et le dernier disque et le dernier album, en fait, on ne le vend qu'en ligne. Mmh. Voilà. Mmh. Alors je dis pas que je fabriquerai pas de CD. Mais si j'en fabrique, c'est pas pour les vendre à la FNAC, ce sera pour les vendre justement.
Au
cul du camion, au concert, ouais. C'est-à-dire là où les gens viennent, où vraiment vraiment à la cible en fait de gens. Ils ont craqué, ils l'ont entendu sur scène, ils veulent repartir, rentrer chez eux et mettre un CD dans leur voiture. Mmh. Et ça c'est légitime.
Ouais, tout à fait. Alors si on revient juste un petit peu à la guitare, c'est quoi qui ferait le son Jean-Michel Cagenan? Moi j'ai encore en souvenir, encore une fois, là je vais faire un peu vieux con là, mais des démonstrations. De fête de la musique où j'étais à 2m50 de vous étiez en train de faire une démonstration, je sais plus, c'était Washburn ou peu importe, et j'étais sur le cul là. Pour moi, vous êtes vraiment le guitariste, je peux pas dissocier Jean-Michel Cagenan de bon goût. Quand Jean-Michel Cagenan joue une note, c'est toujours avec le bon goût. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Donc c'est quoi le secret, c'est quoi le son Jean-Michel Cagenan?
C'est gentil, c'est vrai que je passe du temps à. Je me pose beaucoup de questions, comme tout le monde. J'ai jamais voulu être juste un guitariste, ça m'a jamais intéressé. Bon, j'aime bien, comme tous les guitaristes, parler de matériel, de pédales, d'ampli, tout ça, mais ma quête, elle n'est pas là. En fait, moi, je suis musicien. Si dans un morceau que j'ai réalisé, j'estime qu'il n'y a pas de guitare à mettre, j'en mettrai pas. C'est pas important pour moi, c'est juste, et je trouve que c'est mon instrument, mais c'est pas. C'est avec celui-là que je m'exprime, mais je veux dire, c'est pas essentiel pour moi, quoi. Donc, j'ai un studio, je travaille aussi les textures sonores, les rythmiques, les machins. Enfin, je passe autant de plaisir à faire de la musique, à la composer, à l'arranger. Si on parlait de guitare, effectivement, j'ai passé plus de temps. Moi, je suis un autodidacte, hein, je ne suis pas allé au conservatoire. Donc, j'ai passé plus de temps à essayer de trouver un son dans mes doigts, enfin, un toucher, de développer vraiment un toucher, une espèce d'expressivité. Maintenant, après le goût, c'est très subjectif le goût. Hein. Moi, j'ai un certain sens du goût, mais c'est. C'est le mien, donc après il y a des gens qui peut-être ne seront pas touchés par ça, mais effectivement c'est ma quête, elle est davantage là plutôt que. Et le goût, ça passe par tout un tas de. Enfin, disons l'esthétique, ça passe par tout un tas de choses. C'est pas uniquement le son, ça passe par le son est important aussi, mais c'est aussi l'environnement harmonique.
L'écoute des autres,
et puis aussi comment se positionner par rapport. Et c'est ce qui m'a fait craquer sur Sky la première fois que je l'ai entendu, c'est que quand elle chantait sur ses compositions, elle a une relation en fait entre la mélodie et l'harmonie qui est très originale. Et c'est toujours intéressant de voir quelqu'un comme ça, parce que je me dis, mais c'est quoi cette approche? Elle arrive à chanter des mélodies en fait qui ne font. qui sont finalement presque comme des extensions aux accords qu'elle fait et qui si tu veux qui sont c'est difficile à expliquer parce que c'est du ressenti tout ça quoi. Mais tu vois par exemple quelqu'un qui m'a touché beaucoup aussi sur sa façon de composer, c'est Donald Fagen, et donc un des deux de Steely Dan. Pour cette raison aussi, c'est que c'est une pour sa façon de composer. Cette espèce de relation qu'il a lui entre l'harmonie et la basse et la mélodie. C'est-à-dire qu'il utilise des accords, bon c'est très complexe hein, les morceaux de Steely Dan harmoniquement, mais finalement quand on décortique, et moi j'ai beaucoup décortiqué parce que souvent quand je fais des masterclass dans les écoles, en fait j'aime bien jouer des morceaux de Steely Dan. Et donc j'ai décortiqué des harmonies et en fait souvent les accords sont simples. C'est des renversements en fait avec des basses qui sont étrangères en fait. Par exemple, il va faire au lieu de faire un do majeur avec une basse de do, il va faire un do et il va faire un do, une triade de do à la main droite et il va mettre un fa à la main gauche. Quoi. Donc c'est un exemple très facile hein, comme ça, mais bon, pareil quand il va faire un sol, il va mettre plutôt une basse de do plutôt qu'une basse de sol. Donc du coup, il y a une espèce d'ouverture comme ça harmonique. Ça reste des accords, des triades majeures tout à fait basiques, mais le fait que la basse soit étrangère, tout d'un coup, il y a une espèce d'ouverture qui fait qu'il y a tout un champ nouveau qui s'ouvre. Et moi, ça m'a vachement titillé l'oreille, ce truc-là, et j'ai pompé pas mal de trucs justement dans cette façon de composer pour certains de mes morceaux. Enfin, c'est des choses qui nous font vibrer, mais ce qui me fait vibrer ne te fera pas forcément vibrer ou ne fera pas forcément vibrer le voisin. Bon, donc, c'est à chacun de trouver un peu sa voix comme ça et puis des choses qui nous font du bien.
Alors, si on parle un petit peu juste matériel avant de te laisser aller, là, je ne voudrais pas te retarder. Est-ce que tu continues toujours ton histoire d'amour avec ta sérielle des années je ne sais plus combien?
Ah bah oui, d'ailleurs, si tu restes un peu, tu vas la voir, elle est là. Hein.
Ok, parfait.
Ouais, bien sûr, ah bah ouais, sérielle 1964.
Ouais. Ah, 64.
Voilà. Ah ouais, elle est archi d'origine. Ce qu'il y a, c'est que j'ai juste mis le préampli de la Clapton dedans, parce que les micros, 1964, ils ont perdu un peu, tu vois. Mais, bah ouais, bah ça, à chaque fois que je lui ai fait des infidélités... Je l'ai arrêté. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que ponctuellement, j'aime bien jouer sur d'autres instruments, mais dès que je la reprends, ça dépend ce qu'il y a à jouer, mais c'est une guitare qui est très expressive, quoi. Mmh. Elle me va bien, enfin, je veux dire, elle a des défauts. Elle est bourrée de défauts, mais en fait, j'arrive à, non pas les contourner, mais à m'en servir, en fait, pour justement, donner une espèce de... un côté un peu plus brut et inattendu à certaines notes. Parfois je fais une note et puis la guitare tout d'un coup il y a une frisouille ou un machin, du coup ça me porte quoi. Là, c'est comme si la guitare me disait oh je suis là, enfin, bon.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-Michel de t'être prêté au jeu de mes petites questions et puis bah j'ai bien hâte d'aller te réécouter encore et puis merci d'avoir parlé pour la chaîne guitare avec autant de passion.
Bah merci à toi, c'est un plaisir en tout cas.
Voilà, donc comme vous avez pu entendre, ça a été vraiment un bel échange, je ne m'attendais pas à moins d'ailleurs. La partie qui m'a étonné, c'est justement à quel niveau Jean-Michel était passionné par rapport justement au rapport entre la musique et puis l'internet. On sent que c'est un musicien, vous l'avez bien senti, hein, qui est très accompli et puis dans la musique au sens large, non seulement c'est un guitariste incroyable, mais il a aussi des qualités des habiletés de producteur. Il est aussi très investi au niveau de la musique, comme vous avez pu voir. Il est très allumé au niveau de ce qui s'est passé au niveau de la loi Adopi, donc je trouve ça fait du bien et c'est bon de savoir qu'il y a des musiciens qui sont aussi engagés de cette manière là donc voilà, donc en cadeau bonus en fait de cet épisode, et je vais vous passer quelques dizaines de secondes que j'ai enregistré lors du concert. Ils ont attaqué ce concert avec un morceau de Cream, hein, si je me trompe pas, qui s'appelle Strange Brew, et donc je vais vous passer le solo de Jean-Michel et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti, écoutez-moi ça, c'est que du bonheur.
Strange brew, kill what's inside of you. Jean-Michel Cajetan, mesdames et messieurs, bonsoir. Mm-hmm.
Voilà, donc c'était le petit cadeau spécial là, pour clôturer cet épisode. Et ça a été ça pendant toute la soirée. Hein. Vraiment, que du bon son dans vos oreilles, comme dirait Pierre Fosco de Music Please. Et moi, je me suis régalé. En plus, j'étais au premier rang, donc c'était vraiment très agréable. Moi, c'est une salle que je connaissais pas. Hein. Le Baiser Salé, ça se trouve à côté du métro Châtelet, dans une petite rue. Et bah voilà, c'était bien sympa, surtout bah, d'écouter un guitariste avec ce talent-là, de le voir à 1m50 en train de faire sa magie sur sa Strato L de 1964. Là, et j'ai mis une photo aussi sur le blog, là, donc sur la chaîne guitare.com, où j'ai photographié son pédalier. Et moi, ce que j'aime, il a un pédalier qui est pas mal bien fourni, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est qu'il s'en sert avec... juste ce qu'il faut, juste pour pimenter, pour assaisonner un peu son. Il n'y a pas trop d'effets. Et on pourra avoir peur, des fois, les guitaristes, on aime bien ça, les gadgets, etc., s'en servir beaucoup. Mais on reste toujours dans le bon goût, c'est bien fait, vraiment, c'est que du bonheur. Donc voilà, donc en tout cas, vous connaissez le chemin pour réagir sur cet épisode. Donc à l'adresse sur le blog, c'est www.lachaîneguitare.com. L'adresse email aussi, lachaîneguitare@gmail.com. Sur Twitter, c'est la même chose, twitter.com/lachaîneguitare. Donc le groupe, la page fan, pardon, Facebook. Hein, n'oubliez pas d'aller y faire un tour si vous êtes accro dans Facebook. Ça permettra d'être au courant des dernières nouvelles. Et la ligne téléphonique, donc vous faites le +1 206 426 50 92. Donc depuis la France, faites le 001 206 426 50 92, et ça permettra de recevoir, d'envoyer directement un feedback audio si vous voulez réagir. Voilà, donc sur ce, jouez bien de la guitare et puis on se reparle très bientôt. Ciao, bye bye.